Nous reprenons la lecture de l'exhortation apostolique du pape Benoît XVI. La parole de Dieu est la sauvegarde de la création. L'engagement dans le monde que requiert la parole divine nous pousse à regarder avec des yeux nouveaux le cosmos tout entier créé par Dieu et qui porte déjà en lui les traces du Verbe par lequel tout a été fait. En effet, nous avons aussi, comme chrétiens et messagers de l'Église, une responsabilité vis-à-vis de la création. Si, d'un côté, la révélation nous fait connaître le dessein de Dieu sur le cosmos, de l'autre, elle nous amène aussi à dénoncer les attitudes erronées de l'homme quand il ne connaît pas toutes les choses comme l'empreinte du Créateur, mais comme une simple matière à manipuler sans scrupule. De cette manière, l'homme manque de l'humilité essentielle qui lui permet de reconnaître la création comme un don de Dieu qu'il doit accueillir et utiliser selon son dessein. Au contraire, l'arrogance de l'homme qui vit comme si Dieu n'existait pas le porte à exploiter et à défigurer la nature en ne reconnaissant pas en elle une œuvre de la parole créatrice. À partir de cette vision théologique, je désire répéter les affirmations des pères synodaux qui ont rappelé qu'accueillir la parole de Dieu témoignée dans l'Écriture sainte et dans la tradition vivante de l'Église engendre une nouvelle manière de voir les choses en promouvant une authentique écologie qui plonge sa racine la plus profonde dans l'obéissance de la foi, en développant une sensibilité théologique renouvelée à la bonté de toutes les choses créées dans le Christ. L'homme a besoin d'être à nouveau éduqué à l'émerveillement et à reconnaître la beauté authentique qui se manifeste dans les choses créées. La parole de Dieu et la culture. La valeur de la culture pour la vie de l'homme. L'annonce joannique concernant l'incarnation du Verbe révèle le lien indissoluble qui existe entre la parole divine et les paroles humaines à travers lesquelles elle se communique à nous. C'est à partir de cette considération que le synode des évêques s'est arrêté sur le rapport entre la parole de Dieu et la culture. En effet, Dieu ne se révèle pas à l'homme de façon abstraite, mais en assumant des langages, des images et des expressions liées aux différentes cultures. Il s'agit d'un rapport fécond, amplement attesté dans l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, ce rapport entre dans une nouvelle phase due à l'extension et à l'enracinement de l'évangélisation au sein des différentes cultures et au développement les plus récents de la culture occidentale. Ceci implique avant tout la reconnaissance de l'importance de la culture comme telle dans la vie de tout homme. Le phénomène de la culture dans ses multiples aspects se présente, en effet, comme un élément constitutif de l'expérience humaine. L'homme vit toujours selon une culture qui lui est propre et qui, à son tour, crée entre les hommes un lien qui leur est propre lui aussi, en déterminant le caractère interhumain et social de l'existence humaine. La parole de Dieu a inspiré tout au long des siècles les différentes cultures en engendrant des valeurs morales fondamentales, des expressions artistiques de choix et des styles de vie exemplaires. C'est pourquoi, dans la perspective d'une rencontre renouvelée entre la Bible et les cultures, je voudrais répéter à tous les acteurs du monde culturel qu'ils n'ont pas à craindre de s'ouvrir à la parole de Dieu qui ne détruit jamais la vraie culture, mais qui constitue un stimulant constant dans la recherche d'expressions humaines toujours plus appropriées et significatives. Toute culture authentique, pour être véritablement en faveur de l'homme, doit être ouverte à la transcendance et finalement à Dieu. La Bible, un grand trésor pour les cultures. Les pères synodaux ont souligné combien il importe de favoriser chez les hommes de culture une juste connaissance de la Bible, y compris dans les milieux sécularisés et parmi les non-croyants. L'Écriture sainte contient des valeurs anthropologiques et philosophiques qui ont influencé positivement l'humanité entière. Il faut pleinement retrouver le sens de la Bible comme un grand trésor pour les cultures. La connaissance de la Bible dans les écoles et les universités. L'école et l'université constituent un cadre singulier de la rencontre entre la parole de Dieu et les cultures. que les pasteurs aient une attention particulière à ces milieux en promouvant une connaissance profonde de la Bible de telle façon que les fécondes implications culturelles, y compris pour notre temps, puissent être saisies, que les centres d'études dépendant des entités catholiques apportent une contribution originale qui doit être reconnue à la promotion de la culture et de l'instruction. Il ne faut pas non plus négliger l'enseignement de la religion en formant avec soin les enseignants. Dans de nombreux cas, celui-ci représente pour les étudiants une occasion unique de contact avec le message de la foi. Il est bon que, dans cet enseignement, soit promue la connaissance de l'Écriture sainte, dissipant les préjugés, anciens et nouveaux, et cherchant à faire connaître sa vérité. La Sainte Écriture, à travers les différentes expressions artistiques. La relation entre parole de Dieu et culture a trouvé une expression concrète des différents cadres, en particulier dans le monde de l'art. C'est pourquoi la grande tradition de l'Orient et de l'Occident a toujours estimé les manifestations artistiques inspirées de l'Écriture sainte, telles que, par exemple, les arts figuratifs ou encore l'architecture, la littérature et la musique. Je pense aussi à l'antique langage exprimé par les icônes qui, à partir de la tradition orientale, se diffuse progressivement partout dans le monde. Avec les pères synodaux, toute l'Église exprime sa considération, son estime et son admiration envers les artistes épris de la beauté qui se sont laissés inspirer par des textes sacrés. Ils ont contribué à la décoration de nos églises, à la célébration de notre foi, à l'enrichissement de notre liturgie et en même temps, beaucoup d'entre eux ont aidé à rendre de quelque façon perceptible, dans le temps et dans l'espace, les réalités invisibles et éternelles. J'exhorte les organismes compétents à promouvoir dans l'Église une solide formation des artistes à l'égard de l'Écriture sainte, à la lumière de la tradition vivante de l'Église et du magistère. La parole de Dieu et les moyens de communication sociale. Au rapport entre la parole de Dieu et culture est liée aussi l'importance de l'utilisation attentive et intelligente des moyens de communication sociale anciens et nouveaux. Les pères synodaux ont recommandé une connaissance appropriée de ces instruments en prêtant attention à leur développement rapide et à leurs différents niveaux d'interaction et en investissant plus d'énergie pour acquérir une compétence dans les différents secteurs, en particulier dans ce que l'on appelle les nouveaux médias, comme par exemple Internet. Il existe déjà une présence significative de l'Église dans le monde de la communication de masse, et le magistère ecclésial s'est aussi exprimé à plusieurs reprises sur ce thème depuis le Vatican II. L'acquisition de nouvelles méthodes pour transmettre le message évangélique fait partie de l'attention évangélisatrice permanente des croyants et aujourd'hui, la communication étant un réseau qui enveloppe tout le globe, donnant un sens renouvelé à l'appel du Christ. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Matthieu 10, 27. La parole divine, outre la forme imprimée, doit résonner aussi à travers les autres formes de communication. C'est pourquoi, avec les pères synodaux, je désire remercier les catholiques qui s'engagent avec compétence en vue d'une présence significative dans le monde des médias, en souhaitant un engagement encore plus large et plus qualifié. Parmi les formes nouvelles de communication de masse, un rôle croissant est aujourd'hui reconnu à Internet qui constitue un nouveau forum sur lequel il faut faire résonner l'Évangile, avec la conscience toutefois que le monde virtuel ne pourra jamais remplacer le monde réel et que l'évangélisation ne pourra profiter de la virtualité offerte par les nouveaux médias pour instaurer des relations significatives que si l'on arrive à un contact personnel qui demeure irremplaçable. Dans le monde d'Internet, qui permet à des milliards d'images d'apparaître sur des millions d'écrans dans le monde, devra apparaître le visage du Christ, ainsi que la possibilité d'entendre sa voix, car s'il n'y a pas de place pour le Christ, il n'y a pas de place pour l'homme. La Bible et l'inculturation. Le mystère de l'incarnation nous fait savoir, d'une part, que Dieu se communique toujours dans une histoire concrète en assumant les codes culturels inscrits en elle, mais que d'autre part, la même parole peut et doit se transmettre dans des cultures différentes en les transfigurant de l'intérieur grâce à ce que le pape Paul VI appelait l'évangélisation des cultures. La parole de Dieu, comme du reste la foi chrétienne, manifeste ainsi un caractère profondément interculturel, susceptible de rencontrer et de faire se rencontrer les différentes cultures. Dans ce contexte, on comprend aussi la valeur de l'inculturation de l'Évangile. L'Église est fermement persuadée de la capacité intrinsèque de la parole de Dieu de rejoindre toutes les personnes, quel que soit le contexte culturel qui est le leur. Cette conviction découle de la Bible elle-même qui, dès le livre de la Genèse, prend une orientation universelle, la maintient ensuite dans la bénédiction promise à tous les peuples grâce à Abraham et à sa descendance, et la confirme définitivement en étendant à toutes les nations l'évangélisation. C'est pourquoi l'inculturation ne doit pas être confondue avec des processus superficiels d'adaptation et moins encore avec un syncrétisme confus qui dilue l'originalité de l'Évangile pour le rendre plus facilement acceptable. L'authentique paradigme de l'inculturation est l'incarnation même du Verbe. Une acculturation ou une inculturation sera réellement un reflet de l'incarnation du Verbe lorsqu'une culture, transformée et régénérée par l'Évangile, qui produit à partir de sa propre tradition vivante, des expressions originales de vie, de célébration et de pensée chrétienne, en germant à partir de la culture locale, en valorisant les semina verbi et tout ce qui est présent en elle de positif, en l'ouvrant aux valeurs évangéliques. Les traductions et la diffusion de la Bible. Si l'inculturation de la parole de Dieu fait partie de manière impérative de la mission de l'Église dans le monde, la diffusion de la Bible à travers le précieux travail de traduction dans les différentes langues est un moment important de ce processus. À ce sujet, on doit toujours avoir présent à l'esprit que le travail de traduction des Écritures a commencé dès le temps de l'Ancien Testament, lorsqu'on a traduit le texte hébreu de la Bible oralement en araméen et plus tard par écrit en grec. Une traduction, en effet, est toujours plus qu'une simple transcription du texte original. Le passage d'une langue à une autre comporte nécessairement un changement de contexte culturel. Les concepts ne sont pas identiques et la portée des symboles est différente, car ils mettent en rapport avec d'autres traditions de pensée et d'autres façons de vivre. Pendant les travaux du synode, on a dû faire le constat que différentes églises locales ne disposent pas encore d'une traduction intégrale de la Bible dans leur propre langue. Combien de peuples ont aujourd'hui faim et soif de la parole de Dieu, mais malheureusement ne peuvent encore avoir un accès largement ouvert à la Sainte Écriture, comme cela avait été souhaité au Concile Vatican II. C'est pourquoi le synode considère qu'il est important avant tout de former des experts qui se consacrent à la traduction de la Bible dans les diverses langues. J'encourage l'investissement de ressources en ce domaine. Je voudrais en particulier recommander de soutenir l'engagement de la Fédération biblique catholique afin que le nombre de traductions de l'Écriture puisse s'accroître et leur diffusion progresser. Il est bon que, en vertu de la nature même d'un tel travail, celui-ci soit réalisé dans la mesure et du possible en collaboration avec les différentes sociétés bibliques. La parole de Dieu dépasse les limites des cultures. L'Assemblée synodale, dans le débat autour de la relation entre la parole de Dieu et les cultures, s'est sentie poussée à réaffirmer ce que les premiers chrétiens ont pu exprimer à partir du jour de la Pentecôte. La parole divine est capable de pénétrer et de s'exprimer dans des cultures et des langues différentes, mais cette même parole dépasse les limites des cultures particulières en créant une communion entre les divers peuples. La parole du Seigneur nous invite à aller vers une communion plus large. Nous sortons de l'étroitesse de nos expériences et entrons dans la réalité qui est vraiment universelle. En entrant dans la communion avec la parole de Dieu, nous entrons dans la communion de l'Église qui vit la parole de Dieu. c'est sortir des limites de chaque culture dans l'universalité qui nous relie tous, nous unit tous, nous fait tous frères. C'est pourquoi annoncer la parole de Dieu demande toujours, à nous les premiers, un nouvel exode, d'abandonner nos cadres et nos représentations limitées pour laisser place à la présence du Christ en nous. La parole de Dieu est le dialogue interreligieux, la valeur du dialogue interreligieux. Conscient que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit entrent en dialogue avec l'humanité, l'Église reconnaît comme une part essentielle de l'annonce de la parole la rencontre avec tous les hommes de bonne volonté. Aujourd'hui, l'Église, en évitant toute forme de syncrétisme et de relativisme, recherche le dialogue avec les personnes appartenant aux diverses traditions religieuses selon les signes indiqués par la déclaration du Concile Vatican II « Nostra Aetate » développée par le magistère ultérieur des souverains pontifes. Le rapide processus de la mondialisation offre la possibilité de vivre dans un contact plus étroit avec des personnes de culture et de religions diverses. Il s'agit d'une opportunité providentielle pour manifester comment un authentique sens religieux peut promouvoir entre les hommes des relations de fraternité universelle. Il est d'une grande importance que les religions puissent favoriser dans nos sociétés, souvent sécularisées, un regard qui voit en Dieu Tout-Puissant le fondement de tout bien, la source inépuisable de la vie morale, le soutien d'un sens profond de la fraternité universelle. À titre d'exemple, dans la tradition judéo-chrétienne, on rencontre l'attestation claire de l'amour de Dieu pour tous les peuples qu'il réunit, déjà dans l'alliance étroite avec Noé, en une grande et unique étreinte symbolisée par l'arc au milieu des nuages, et que, selon les paroles des prophètes, il entend rassembler en une unique famille universelle. De fait, des témoignages du lien intime existant entre le rapport avec Dieu et l'éthique de l'amour pour tout homme se retrouvent dans de nombreuses grandes traditions religieuses. Le dialogue entre chrétiens et musulmans. Parmi les différentes religions, l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un. Ces derniers se réfèrent à Abraham et rendent un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Nous reconnaissons que dans la tradition de l'islam sont présents de nombreuses figures, des symboles et des thèmes bibliques. Dans la continuité de l'œuvre importante du vénérable Jean-Paul II, je souhaite que les rapports inspirés par la confiance qui se sont instaurés depuis plusieurs années entre chrétiens et musulmans se poursuivent et se développent dans un esprit de dialogue sincère et respectueux. Dans ce dialogue, le synode a exprimé le souhait que puisse être approfondi le thème du respect de la vie en tant que valeur fondamentale et celui des droits inaliénables de l'homme et de la femme et de leur égale dignité. En tenant compte de la problématique importante de la distinction entre l'ordre sociopolitique et l'ordre religieux, les religions doivent apporter leur contribution au bien commun. Le synode demande aux conférences épiscopales, là où cela apparaît opportun et profitable, de favoriser des rencontres pour que chrétiens et musulmans se connaissent mutuellement, afin de promouvoir les valeurs dont la société a besoin pour une coexistence pacifique et positive. Le dialogue avec les autres religions. En cette circonstance, je voudrais par ailleurs manifester le respect de l'Église pour les religions traditionnelles et les antiques traditions spirituelles des différents continents qui contiennent également des valeurs qui peuvent favoriser la compréhension entre les personnes et les peuples. Nous constatons fréquemment une syntonie avec des valeurs exprimées aussi dans leurs livres religieux, comme par exemple le respect de la vie, la contemplation, le silence, la simplicité dans le bouddhisme, le sens de la sacralité, du sacrifice et du jeûne dans l'hindouisme, et encore les valeurs familiales et sociales dans le confucianisme. Nous découvrons avec satisfaction aussi dans d'autres expériences religieuses une attention sincère pour la transcendance de Dieu, reconnue comme créateur, tout comme le respect de la vie, du mariage et de la famille, et le sens fort de la solidarité, le dialogue et la liberté religieuse. Cependant, le dialogue ne serait pas fécond s'il n'incluait pas aussi un respect authentique envers chaque personne afin qu'elle puisse adhérer librement à sa religion. Le synode, alors qu'il encourage la collaboration entre les représentants des diverses religions, rappelle donc également la nécessité que soit assurée de manière effective à tous les croyants la liberté de professer leur propre religion en privé et en public, ainsi que la liberté de conscience. En effet, le respect et le dialogue requièrent la réciprocité dans tous les domaines, surtout en ce qui concerne les libertés fondamentales et plus particulièrement la liberté religieuse. Il favorise la paix et l'entente entre les peuples. En conclusion, la parole définitive de Dieu. Au terme de ces réflexions par lesquelles j'ai voulu recueillir et approfondir la richesse de la 12e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église, je désire encore une fois exhorter le peuple de Dieu tout entier, les pasteurs, les personnes consacrées et les laïcs à s'engager pour devenir toujours plus familiers des Écritures saintes. Nous ne devons jamais oublier qu'à la base de toute spiritualité chrétienne authentique et vivante se trouve la parole de Dieu annoncée, écoutée, célébrée et méditée dans l'Église. Cette intensification de la relation avec la parole divine se réalisera avec d'autant plus d'élan que nous serons davantage conscients de nous trouver dans l'Écriture comme dans la tradition vivante de l'Église, face à la parole définitive de Dieu sur le monde et sur l'histoire. Comme nous le fait contempler le prologue de l'Évangile de Jean, tout ce qui est se trouve sous le signe de la parole. Le Verbe jaillit du Père et il vient demeurer parmi les siens, et puis il retourne dans le sein du Père pour emporter avec lui toute la création qui, en lui et par lui, a été créée. Aujourd'hui, l'Église vit sa mission dans l'attente anxieuse de la manifestation eschatologique de l'Époux. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Cette attente n'est jamais passive, mais elle est une tension missionnaire dans l'annonce de la parole de Dieu qui purifie et rachète tout homme. Aujourd'hui encore, Jésus ressuscité nous dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création ». La nouvelle évangélisation et la nouvelle écoute. En conséquence, notre temps doit être toujours davantage le temps d'une nouvelle écoute de la parole de Dieu et d'une nouvelle évangélisation. Redécouvrir le caractère central de la parole divine dans la vie chrétienne nous fait retrouver aussi le plus profond de ce que le pape Jean-Paul II a rappelé avec force, continuer la missio ad gentes et entreprendre avec toute les forces de la nouvelle évangélisation, surtout dans les pays où l'Évangile a été oublié ou souffre de l'indifférence du plus grand nombre en raison d'un sécularisme diffus. Que l'Esprit Saint éveille chez les hommes la faim et la soif de la parole de Dieu et suscite les zélés messagers et témoins de l'Évangile. À l'exemple du grand apôtre des nations qui fut transformé après avoir entendu la voix du Seigneur, écoutons nous aussi la parole divine qui nous interpelle toujours personnellement, ici et maintenant. Les Actes des Apôtres nous racontent que l'Esprit Saint se réserva Paul et Barnabé en vue de la prédication et de la diffusion de la bonne nouvelle. Ainsi, aujourd'hui, l'Esprit Saint ne cesse de susciter des auditeurs et des messagers convaincus et persuasifs de la parole de Dieu. La parole est la joie. Plus nous savons être disponibles à la parole divine, plus nous pourrons constater que le mystère de la Pentecôte est en action aujourd'hui aussi dans l'Église de Dieu. L'Esprit du Seigneur continue de répandre ses dons sur l'Église afin que nous soyons conduits à la vérité tout entière, nous ouvrant le sens des Écritures et faisant de nous des messagers crédibles de la parole du salut. Nous revenons ainsi à la première lettre de saint Jean. À travers la parole de Dieu, nous aussi, nous avons entendu, vu et touché le Verbe de vie. Nous avons écouté par grâce l'annonce que la vérité éternelle s'est manifestée, afin que nous reconnaissions que nous sommes en communion les uns avec les autres avec ceux qui ont précédé sous le signe de la foi et avec tous ceux qui, répandus à travers le monde, écoutent la parole, célèbrent l'Eucharistie, vivent le témoignage de la charité. La communication de cette annonce, nous rappelle l'apôtre Jean, est donnée pour que nous ayons la plénitude de la joie. L'assemblée synodale nous a permis d'expérimenter ce qui est contenu dans le message joannique. L'annonce de la parole crée la communion et apporte la joie. Il s'agit d'une joie profonde qui jaillit du cœur même de la vie trinitaire et qui se communique à nous dans le Fils. Il s'agit de la joie comme don ineffable que le monde ne peut donner. On peut organiser des fêtes, mais pas la joie. Selon l'Écriture, la joie est un fruit de l'Esprit-Saint qui nous permet de pénétrer dans la parole et de faire en sorte que la parole divine entre en nous en portant ses fruits pour la vie éternelle. En annonçant la parole de Dieu dans la force de l'Esprit-Saint, nous désirons communiquer aussi la source de la vraie joie, non une joie superficielle et éphémère, mais celle qui jaillit de la conscience que seul le Seigneur Jésus a les paroles de la vie éternelle. Mater Verbi et Mater Laetitiae. Cette relation intime entre la parole de Dieu et la joie est manifestée avec évidence chez la Mère de Dieu. Rappelons les paroles de Sainte Élisabeth, « Heureuse celle qui a cru l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie est bienheureuse parce qu'elle a la foi, qu'elle a cru, et que dans cette foi, elle a accueilli dans son sein le Verbe de Dieu pour le donner au monde. La joie provenant de la parole peut maintenant s'étendre à tous ceux qui, dans la foi, se laissent transformer par la parole de Dieu. L'Évangile de Luc nous présente à travers deux textes ce mystère d'écoute et de joie. Jésus affirme « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et, face à l'exclamation d'une femme qui, au milieu de la foule, entend exalter le ventre qu'il a porté et le sein qu'il a allaité, Jésus révèle le secret de la vraie joie. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus indique la vraie grandeur de Marie en ouvrant ainsi à chacun de nous la possibilité de cette béatitude qui naît de la parole écoutée et mise en pratique. C'est pourquoi, à tous les chrétiens, je rappelle que notre relation personnelle et communautaire avec Dieu dépend de l'accroissement de notre familiarité avec la parole divine. Enfin, je m'adresse à tous les hommes, également à ceux qui se sont éloignés de l'Église, qui ont abandonné la foi ou qui n'ont jamais entendu l'annonce du salut. À chacun, le Seigneur dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Que chacune de nos journées soit donc façonnée par la rencontre renouvelée du Christ, le Verbe du Père fait chair. Il est à l'origine et à la fin, et tout subsiste en lui. Faisant silence pour écouter la parole du Seigneur et pour la méditer, afin que par l'action efficace de l'Esprit-Saint, elle continue à demeurer, à vivre et à nous parler tous les jours de notre vie. De cette façon, l'Église se renouvelle et rajeunit grâce à la parole du Seigneur qui demeure éternellement. Ainsi, nous pourrons nous aussi entrer dans le grand dialogue nuptial par lequel se clôt l'Écriture sainte. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui témoigne de tout cela déclare « Oui, je viens sans tarder ». Amen, viens, Seigneur Jésus.